Éric Hazan. Alors, ce que disait Éric Hazan, c'est la place que Spinoza occupe, ou du moins la référence qu'il constitue aujourd'hui sur la scène intellectuelle, et vous attaquez un certain nombre d'intellectuels contemporains qui prennent Spinoza comme une figure de l'antijudaïsme et quasiment Spinoza comme un précurseur d'Hitler.
Oui, alors, c'est vrai que ce que disait Éric Hazan, c'est ce retournement, ce basculement entre une intellectualité juive, progressiste, émancipatrice, et puis qui, à notre époque, paraît être finalement le chef de file d'une certaine idéologie réactionnaire. Alors, c'est vrai que l'intérêt de notre projet était à la fois de travailler sur Spinoza, parce que, à l'origine de ce projet que nous avions, c'était l'idée aussi de témoigner d'un judaïsme émancipateur en opposition avec un judaïsme réactionnaire. Ça, c'est le premier point, je crois, intéressant et très important. C'est que ceux qui accusent les intellectuels au XXe siècle, les philosophes juifs, ou qui s'alimentent de la tradition juive, vont présenter Spinoza comme un traître et vont justifier l'excommunication à partir d'une position qui est finalement une position dogmatique. C'est-à-dire l'idée que le judaïsme est un corps de doctrine constitué et que s'en écarter, c'est une trahison. Ça, c'est une position dogmatique. Or, la position de Spinoza, comme rationalisme émancipateur, ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer qu'au fond, elle est fidèle à la tradition hébraïque telle que moi, je l'étudie et telle que moi, je me la réapproprie. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer à l'intérieur du judaïsme l'antagonisme entre un judaïsme réactionnaire et un judaïsme émancipateur. Et je crois que ça, c'est vrai également, évidemment, dans le cas du christianisme et dans le cadre aussi de l'islam ou de tout autre corps de doctrine constitué. Et donc, ça modifie l'approche, puisque ça nous permet de sortir, finalement, de catégories qui sont dogmatiques.
Tout ça en passant par le judaïsme, en passant par le Talmud, en passant par l'étude des textes de base de la culture juive.
Alors, dans mon cas, oui, j'ai étudié longtemps la Bible et le Talmud. Alors, dans ce livre, j'étudie d'abord principalement Spinoza, mais je montre, ça c'est le cheminement dans l'ouvrage. Dans la deuxième partie, j'oppose Spinoza à Maïmonide, puisque Spinoza lui-même cite Maïmonide pour s'y opposer autour de la question de la loi. Et je m'efforce de montrer que Spinoza retrouve, à travers sa propre philosophie et sa propre analyse de certains textes fondamentaux de la Bible, il retrouve une lecture qui me paraît être la lecture pertinente et intelligente de ces textes, d'où le paradoxe que celui qu'on accuse d'être un traître s'avère être, au final, fidèle à la tradition originaire. Alors, cette question de la trahison et de la fidélité, elle pose une question fondamentale, qui est, qu'est-ce qu'être fidèle ? Et encore une fois, on retrouve la question d'une fidélité dogmatique, comme si un corps de doctrine était constitué de manière inamovible, et qu'il suffisait d'y rester fidèle pour être fidèle. Ça, c'est une position dogmatique. Et il y a une position émancipatrice, qui est que si le cœur d'un enseignement, c'est la question de l'émancipation, alors, être fidèle suppose une pensée en mouvement. Il y a une formule d'Alain Badiou dans L'être et l'événement qui est pour moi très importante. Il dit « La loi d'une fidélité n'est pas fidèlement discernable. » Donc la loi d'une fidélité exige, pour continuer, d'être créatif, d'être inventif. Et je crois que l'inventivité rationaliste de Spinoza, la manière dont il va organiser ses intuitions qui sont les siennes, rejoignent sur l'essentiel les textes de la tradition hébraïque tels que je les étudie.
Est-ce qu'on ne trouve pas la même chose dans le christianisme ? On peut, dans le christianisme, à partir des mêmes évangiles, avoir des interprétations tout à fait antagonistes. On peut avoir, d'une part, une église progressiste, je pense à l'église d'Amérique latine, par exemple, et puis on peut avoir une église complètement réac, comme celle qu'on voit aussi en Amérique latine, je pense à l'Argentine.
Absolument. Et c'est vrai également dans le cas de l'islam.
Bien sûr.
Et c'est d'autant plus vrai que ce qui devient intéressant, c'est de ne plus se situer dans des catégories dogmatiques, dans des oppositions entre judaïsme, islam, christianisme. Mais ce qui devient intéressant, justement, c'est de resituer ces antagonismes intérieurs à un propre corps de doctrine pour montrer à partir de là les convergences et les véritables solidarités entre différentes identités et montrer également où se jouent les véritables antagonismes. Et l'exemple de la théologie de la libération est d'autant plus intéressant qu'évidemment l'antagonisme que ça fait jouer entre judaïsme émancipateur ou christianisme émancipateur.